tranquillité le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est exactement ce que disait Emmanuel. Est-ce qu'on veut ces choses dans notre vie? Est-ce qu'on veut le salut dans notre vie? Est-ce qu'on veut Jésus-Christ dans notre vie? Est-ce que on a cette tranquillité, la paix en Christ? Est-ce qu'on l'a ce matin? Est-ce qu'on a le repos en Christ? Ou est-ce qu'on est submergé ce matin? Est-ce qu'on est dans le calme? Est-ce qu'on est dans la confiance de son Seigneur? Christina a vécu des moments fantastiques où elle a vu le bras de Dieu agir. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance en son Seigneur. Et c'est incroyable parce que c'est lié avec la prédication que j'avais envie de vous faire, que j'ai reçue vraiment sur mon cœur. J'étais marqué par un seul verset, mais je ne pouvais pas le dissocier de tout l'ensemble du texte, parce que le texte est très riche. Où es-tu ce matin? Où es-tu ce matin? Est-ce que tu es perdu? Est-ce que ta situation est difficile? Est-ce que il y a des choses qui sont terribles, que tu as commises et que te donne plus le goût au Seigneur? Est-ce que, peut-être comme Christina, elle vit des moments très durs, très difficiles, et peut-être que dans sa vie, elle se dit, mais les choses ne seront plus comme avant. Eh bien, j'ai envie de lui dire et vous dire à chacun, les choses vont redevenir comme avant. J'ai demandé à... il l'a fait. Voilà, le rétablissement de toutes choses. Dieu va agir. Et il va rétablir toutes choses dans votre vie. Tout ce qui a été, on le verra à la fin, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été brûlé, tout ce qui a été ravagé. Et il ne va pas le faire pour toi. Il va le faire pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. On va aller dans le livre d'Ézéchiel. Alors Ézéchiel, c'est un prophète qui a vécu... C'était un prêtre au départ, qui était le fils d'un prêtre, qui est né en 623 ou 622, au milieu de ces années-là. Et il était prédestiné à effectuer le sacerdoce. Ça a été long. Et au moment où il devait l'être, ça ne s'est jamais fait. Parce que le peuple a été envoyé en exil. Et c'est surtout parce que l'Éternel avait une destinée pour lui bien plus glorieuse. Il est devenu un prophète, un grand prophète. Et son ministère a duré 22 ans. La première vision qu'il a eue, c'était pas une vision des plus belles, on va dire. C'est celle de Dieu sur son char de guerre qui était de mauvais augure. Ça signifiait rien de bon. En fin de compte, c'était l'image que Dieu allait abandonner Israël. Et on va le lire, le premier verset. Je regardais, voici sur le ciel qui est au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. » Et il y a là devant mes yeux. Répands-les sur la ville. Il a répandu ses charbons ardents sur Jérusalem. La condamnation était sur ce peuple. En fin de compte, plutôt que de défendre la ville, Dieu a décrété, planifié et supervisé sa destruction. Alors vous allez me dire, c'est violent. Et après avoir détruit Jérusalem, tout le peuple a été exilé. Et Ézéchiel faisait partie des exilés. Et tout le peuple d'Israël était hostile au message qu'il donnait. Complètement hostile. Il disait que ses paroles étaient des bavardages amusants. On va le voir dans les versets suivants. Je dis à Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles ? Le verset suivant, les versets. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, il écoute tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile de la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Voilà ce que faisait le peuple de Dieu. Il est allé beaucoup plus loin. Et bien sûr, à un moment donné, Dieu va montrer au peuple de Dieu qu'il avait au milieu de lui un grand prophète. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ils ont vu que Ézéchiel était un grand prophète. En fin de compte, l'exil n'a pas été bref du tout. La ville n'a pas été épargnée. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré un comportement déplorable pendant l'exil, et c'est là le sujet de la prédication, Dieu va manifester sa miséricorde et sa grâce à un reste du peuple de Dieu. Il va montrer un amour incroyable. Ce reste va survivre à l'exil, il va hériter à nouveau des promesses et sera rétabli dans le pays. Dieu reviendra même demeurer en son sein. Vois ici un message d'espoir. C'est le rétablissement de la nation d'Israël. Et ce matin, je suis persuadé que l'Éternel veut établir quelqu'un. Il veut le remettre là où il était avant. Alors on va aller au verset 16. L'exil s'était en partie produite, bien sûr, à cause de la culpabilité du peuple d'Israël, accumulée depuis des générations par les pères et ainsi de suite, toutes les générations qui ont vécu une révolte contre l'Éternel. On ne sait pas pourquoi. Vous allez me dire que nous, on est parfaitement capable d'en faire autant. Et ils affirmaient même que Dieu était injuste. On va le voir au verset suivant. Chapitre 18 d'Ézéchiel, verset 25. « Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite ? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites ?» L'Éternel, Israël disait que les voix de Dieu n'étaient pas justes. C'est incroyable. Il avait bénéficié de miracles et pourtant il disait encore que l'Éternel n'était pas juste. Il disait que l'Éternel punissait la génération présente pour le péché de ses pères. En fait, quand en raisonnant ainsi, c'est simplement que le peuple ne voulait pas faire face à son péché, le péché de désobéissance. Et ce n'était pas la responsabilité du peuple dans son ensemble, et Paul l'a dit tout à l'heure dans sa présentation. C'était une responsabilité individuelle. Lorsqu'on va passer devant l'Éternel, on sera individuellement. Ce ne sera pas en collectif, ce sera individuel. Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné ? C'est ce que l'Éternel va nous dire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Vous imaginez les abominations. Ici, l'Éternel rappelle le péché du peuple. Est-ce que le péché du peuple est le nôtre aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est éloigné de l'Éternel? Est-ce que notre vie est bouleversée par notre conduite? Et il faut savoir qu'en ce temps-là, la profanation était liée comme une femme qui avait ses pertes menstruelles. Elle l'était rendue spirituellement et rituellement impure pendant le temps de sa perte de sang. Et elle souillait tout ce qu'elle touchait. Ça veut dire que par son comportement, le peuple de l'Éternel salissait tous ceux qui étaient autour d'eux, au lieu de glorifier le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on fait ça dans nos vies? Est-ce qu'on a ça dans nos vies? Des choses qui nous salissent peut-être indépendamment de notre volonté. On est sali. Au lieu de glorifier le nom de l'Éternel, on salit le nom de l'Éternel. Alors comment ils ont souillé le nom de l'Éternel? Comment ils ont souillé le pays d'où ils se trouvaient? En versant le sang et en pratiquant l'idolâtrie. Vous allez me dire, mais aujourd'hui je ne verse pas de sang. Est-ce que je tue quelqu'un avec mes paroles? Est-ce que je tue quelqu'un avec mes paroles? Est-ce qu'on réfléchit à ça? Tuer un frère ou une sœur avec nos paroles, c'est verser le sang. Au lieu d'avoir des paroles d'amour, on a des paroles qui tuent. C'est ce que faisait ce peuple. Il tuait, il versait le sang. Il avait des idoles. Quelle est notre idole? Ça peut être Dieu lui-même. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on peut avoir Dieu comme idole? Ben oui, parce qu'on a une image complètement tronquée de qui est réellement Dieu. Et on dit Dieu est bon. Si je vous dis ça, vous allez dire, oui, c'est vrai, Dieu est bon. Mais non, Dieu est juste et bon. On oublie la justice de Dieu. Le peuple avait oublié la justice de Dieu. Ce Dieu qui les avait fait sortir de l'esclavage, comme nous aujourd'hui, on a été sortis de l'esclavage. Et quelles sont les souillures qui sont dans nos vies aujourd'hui? L'ego? Le manque d'amour? Le manque de discernement de l'action de Dieu dans notre vie, parce que c'est ce que manquait, c'est ce qui manquait à ce peuple. Il ne discernait même pas les grâces de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on peut penser à ça vraiment? On est tellement submergé qu'on ne voit même plus lorsque le Seigneur intervient dans notre vie. Et on dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné, alors qu'il était là près de nous. Il ne nous a jamais quittés. Alors Dieu va agir. Là, je vous rassure, Dieu va agir. Mais il ne va pas agir selon les pleurnichements du peuple. Il ne va pas agir parce que le peuple a fait une belle prière. Il va agir parce que son saint nom a été blasphémé. Il va agir parce que son amour a été blasphémé. Et il va faire quelque chose de remarquable. Il va ôter le peuple du pays qu'il souille. Et ce qui est incroyable, c'est que au verset 20, on dit « Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple d'Éternel, de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. » Vous imaginez ? Dieu les a mis dans un pays, et même dans ce pays, ils ont profané son nom. Et parfois, le Seigneur nous sort des situations. Il nous sort dans les situations, non pas qu'on a été mis, mais dans lesquelles on s'est mis. Au lieu de rendre grâce à l'Éternel lorsqu'il nous en a sortis, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. On continue dans la même voie. Et bien sûr, le comportement étonne le monde. On dit à tout le monde, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Et le monde dit, mais c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Littéralement, c'est de son sein qu'ils sont sortis. On est censé avoir été sauvé, régénéré. C'est-à-dire que on est lavé de tout péché. Et pourtant, si on réfléchit bien dans quelle situation on est aujourd'hui, on se trouve dans quelle situation ? Est-ce qu'on se trouve dans la même situation que le peuple de Dieu qui blasphémait le nom de l'Éternel avec des comportements qui étaient à l'opposé de ce qu'il aurait dû faire ? Bien sûr, cette expression qu'on vient de voir, c'est une expression de dédain du monde. Ce n'est pas une expression d'étonnement. Si c'est ça être chrétien. Le monde, en fin de compte, n'éprouve que du mépris envers ceux, et notamment ici, le peuple, des gens qui se prétendent appartenir à l'Éternel et qui, en fin de compte, n'en témoignent aucun effet. Rien dans leur vie ne montre qu'ils sont chrétiens. Et pour ce peuple, rien ne montrait qu'ils étaient le peuple élu. Rien ne montrait. Ils avaient le même comportement, comportement désinvolte, comportement de jugement, même le jugement de l'Éternel. Ils jugeaient l'Éternel. Et ainsi, ils blasphémaient le nom de Dieu. Donc l'Éternel va agir. Et on aurait pu dire, oui, l'Éternel va prononcer une sentence. Mais c'est sans compter l'amour de Dieu. L'Éternel va en fin de compte agir pour son saint nom. Au lieu d'anéantir son peuple, il va en sauver une partie. Et on va voir de quelle manière. Et peut-être que on sait qu'on a commis des fautes dans notre vie. On le sait peut-être maintenant. Ces fautes nous ont éloignés de Dieu. Et peut-être qu'on pense qu'il nous a laissé tomber. Peut-être qu'on pense qu'il s'est éloigné de nous. Alors que je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Mais aujourd'hui, il va te rétablir comme il a rétabli son peuple. Et il va employer les grands moyens. Des moyens magnifique qu'on va voir maintenant. Verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vais vous enlever de là où vous êtes maintenant. Du milieu de vos immondices. » Dans la situation où tu es, je vais t'enlever aujourd'hui. aujourd'hui je vais t'enlever. Je vais te ramener dans ton pays. Il va nous ramener sur le chemin de la vérité et de la vie. Est-ce qu'on a pensé à ça? C'est lui qui va le faire pour son nom. Il va nous ramener à Jésus-Christ. Il va glorifier son nom dans une nouvelle vie, on le verra après, qu'il va nous donner. Mais c'est d'abord en Christ qu'il va nous ramener. Verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Qu'est-ce que c'est rafraîchissant de savoir cela. Ici, on ne parle absolument pas des eaux du baptême. Vous le savez bien. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, lorsqu'on aspergeait d'eau, on lavait le corps. Et on va passer au verset suivant. Ah, j'ai dû en oublier entre deux. Non, tu as dû en passer alors, non? Ou je me suis trompé? Recule un peu encore. Voilà, c'est ça. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. L'idée maîtresse ici, c'est que Dieu purifiera Israël de ses péchés, comme il le fera avec ceux qui se sont éloignés de lui, ou alors avec la situation dans laquelle on se trouve. Il va purifier la situation. Il va laver la situation. Et cette purification va être suivie du don d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie va commencer. Quelque chose de nouveau va naître. Après nous avoir mis à part, comme il a mis son peuple à part, il va purifier et nous donner une vie nouvelle et un nom nouveau. En Ésaïe 62, verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Voyez le changement. Alors les nations verront ton salut. D'un côté, on a les nations qui se moquent du peuple de Dieu. Et ici, les nations verront ton salut. C'est ici où on voit le changement. Le changement que Dieu va opérer dans ta vie. Bien sûr, il faut s'approcher de Dieu d'un cœur sincère. On l'a dit ce matin. Il faut revenir à Dieu d'un cœur sincère. En Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, lavé de tout péché. Le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. On ne parle pas de l'esprit de Dieu ici. Vous avez, si vous regardez dans la parole, c'est esprit avec un petit e, avec un petit e. En fait, quand l'esprit nouveau ici, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il va renouveler notre intelligence. C'est ce que nous avons besoin pour ne pas retomber dans nos travers. En Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce renouvellement d'intelligence qui va mettre en nous l'idée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? C'est d'avoir cette confiance, comme on a lu en Ésaïe au début de cette prédication. cette confiance, cette tranquillité, ce calme en l'Éternel. Vous savez, j'ai toujours en tête David devant Goliath. Et je l'ai dit ce matin. Pour David, le géant, ce n'était pas Goliath. Son géant, c'était Dieu. Parce qu'il l'avait sorti de situations incroyables. Il y a eu les loups, un ours, il y a eu des lions. Il les a terrassés. Et pour David, son géant, c'était Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était capable de tout. Et il l'a montré. Il l'a montré parce que du haut de ses 12 ans, il a terrassé le plus grand des guerriers philistiens, et en taille, et en force, et en technique. Lui, le petit berger, qui n'avait qu'une fronde pour éloigner les animaux sauvages. Il a terrassé le plus grand des guerriers. Donc le renouvellement de l'intelligence va faire en sorte qu'on va discerner qui est réellement l'Éternel. Et le peuple de Dieu avait besoin de ça. J'ai lu dans une version, et je crois que c'est beaucoup plus fort, « J'arracherai de votre corps le cœur de pierre. » C'est plus fort que « J'ôterai ». Le Seigneur va arracher. C'est-à-dire que c'est lui qui va opérer cette action. Il va prendre notre cœur de pierre, il va l'arracher. Vous imaginez ? On ne pourra rien faire, il va l'arracher. C'est de sa propre initiative qu'il va arracher ce cœur de pierre. Et il mettra à la place un cœur de chair. Le cœur de chair, ça détermine la façon d'être d'une personne. C'est en fin de compte, ça va être le principal lieu de rencontre de Dieu. Si on a un cœur de pierre, on est incapable de voir Dieu, incapable de discerner qui est réellement Dieu, quelle est l'œuvre qu'il a mis en place au travers de Jésus-Christ. Si on a ce cœur de pierre, on n'est pas capable de voir l'œuvre de Dieu. Mais Dieu va nous arracher ce cœur. Mais c'est aussi de ce cœur, lorsqu'il n'est pas changé, que viennent les intentions mauvaises. Les mensonges, les compromis, les adultères, les inconduites, le vol, les faux témoignages, etc. En Matthieu 15, verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Si on a encore ce cœur de pierre, on va commettre toutes ces choses. Et l'Éternel veut l'arracher. Et ils veulent l'arracher. Est-ce que ce n'est pas formidable? Est-ce que ce n'est pas magnifique de considérer l'amour du Père pour chacun d'entre nous, qui ne va pas nous laisser dans cette situation? Il va arracher. Il va mettre, en fin de compte, il va arracher ce cœur pour mettre en nous le vouloir et le pouvoir. En Philippiens 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas nous qui produisons ces choses. C'est le fait qu'il a changé notre cœur. Le fait que aujourd'hui on discerne qui il est réellement. Et tout ça pour être en capacité de l'aimer et de lui obéir. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai mon esprit avec un grand E. Parce que vous imaginez bien que lorsqu'il aura arraché ce cœur de chair, ça sous-entend le fait que maintenant, à ce moment précis, on est crucifié avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que personnellement, on n'existe plus. C'est l'Esprit de Dieu qui existe en nous. Si on n'a pas ce cœur arraché, jamais, jamais l'Esprit de Dieu viendra en nous. Parce qu'il y aura cette guerre entre la chair et l'esprit. Et comme l'esprit ne force pas, il va diminuer et il va s'éteindre. Les conséquences de cela, au verset 28, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez là où j'ai décidé que vous soyez. C'est là où l'Éternel va nous prendre et va nous mettre à notre place. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. L'Éternel va demeurer avec nous, dans notre sein. C'est-à-dire qu'il va revenir dans son temple, là où il aurait toujours dû être. Il va reprendre sa place. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, je multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Là, on parle vraiment d'une délivrance. Il va nous délivrer de nos souillures. Vous imaginez, il va enlever toutes ces choses qui nous salissent et qui salissent ceux qui nous entourent. En fait, quand c'est une délivrance totale pour lui étendre sa grâce. J'appellerai le blé, je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Il va nous nourrir de sa parole. C'est l'image qui est donnée ici. Le peuple ne va plus mourir de faim. Est-ce qu'on a faim ce matin? Est-ce qu'on a soif de la parole de Dieu? La chose qui va arriver, c'est inévitable. Verset 31, « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. » C'est la repentance. On va voir clair. Ayant ce nouveau cœur, ayant cette nouvelle volonté, on va comprendre qu'on n'est rien sinon que de la boue devant l'Éternel. On va se repentir. Tu vas te repentir. Mais peut-être d'une façon que jamais tu n'as fait. Parce que l'Éternel va mettre en toi un dégoût de toi-même. Comme il a mis en son peuple ce dégoût. Vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Moi, je trouve ça merveilleux. Merveilleux que l'Éternel va accepter notre repentance alors qu'on traîne peut-être aujourd'hui même son nom dans la boue. Mais il le fait pour lui. Il le fait parce qu'il va se servir de nous, de chacun d'entre nous. Et il a besoin de nous purifier, il a besoin de nous reconstruire. Versets 33 et 34. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? L'Éternel va nous purifier de tous nos péchés. De tous nos péchés. Il va relever ce que l'on a détruit. On a détruit des trésors qu'il nous avait donnés. Il va relever toutes nos ruines et il va reconstruire. La terre dévastée de notre cœur, où la parole n'entrait même plus, elle sera cultivée et elle va donner du fruit. Même les gens le verront. Parce qu'il est dit, elle était déserte aux yeux de tous les passants. Il n'y avait rien. Le cœur était sec. Mais aujourd'hui, ton cœur sera rempli de la parole de Dieu. Parce que ton cœur aurait été travaillé par Dieu lui-même. Et ce ne sera plus une terre dévastée. Mais ce sera un cœur nouveau, pétri par l'amour de Dieu. Le verset 36, et ensuite ce sera la conclusion. « Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. » C'est formidable. C'est formidable de savoir que c'est l'Éternel qui va faire ça. C'est l'Éternel qui va rebâtir ce qui a été abattu en nous. Ce cœur qui aujourd'hui peut-être souffre. Cette situation dans laquelle on se trouve, l'Éternel va rebâtir. Et il va planter lui-même ce qui a été dévasté. Il va travailler le cœur. Il ne va pas nous laisser orphelins. Son peuple n'a jamais été orphelin. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas lui qui s'est éloigné de nous, mais c'est nous qui sommes éloignés de lui. Lui, il est toujours là. Et il est prêt à agir. Donc c'est un texte magnifique. Pour moi, je l'ai considéré comme un texte magnifique qui montre malheureusement que les Israélites, peuple choisi par Dieu, ont eu un manque total de clairvoyance quant à l'amour de Dieu à leur égard. Est-ce qu'on ne fait pas pareil à certains moments de notre vie? Il nous montre que malgré les circonstances défavorables de l'exil, il nous montre que peut-être au milieu de nos galères, de nos épreuves, bien sûr qu'ils sont liés à notre désobéissance, là c'était lié à la désobéissance du peuple. Le peuple de Dieu était incapable de reconnaître sa faute et de s'humilier devant son Dieu et devant son saint nom. Bien au contraire, il le blasphémait par une attitude semblable à ceux qui les entouraient, ne provoquant que mépris et humiliation à l'égard de Dieu. Si ton Dieu ne peut pas te sauver, comment moi aujourd'hui il me sauvera? C'est ce que dit le monde, hein. Le monde dit ça parce que ça arrange bien le monde. Aujourd'hui, on est les témoins de Christ. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Mais bien sûr, c'est sans compter l'amour parfait de Dieu, qui efface les transgressions et rétablit toutes choses selon ses plans. J'aime à croire que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. J'aime à croire qu'il ne nous abandonne pas. J'aime à croire qu'il nous laisse aller dans une impasse, qu'il nous laisse tomber dans notre citerne qu'on s'est creusée nous-mêmes. Et ce n'est pas lui qui l'a creusée. On a peut-être commis des fautes énormes ce matin. On se trouve peut-être dans une situation énorme. On veut la fuir. On veut fuir la situation dans laquelle on se trouve. On veut fuir nos péchés. Et on met tout par terre. Toutes ces années qu'on a partagées avec l'Éternel, on met tout par terre. Parce qu'on a choisi de fuir. Parce qu'on ne veut pas être devant nos responsabilités. C'est ce que refusait le peuple. Mais on a oublié que Dieu est allé jusqu'à donner son Fils unique pour chacun d'entre nous. On a oublié que les choses anciennes passent et que toute chose devient nouvelle en Christ. Et c'est ce que l'Éternel veut faire ce matin dans ta vie, veut faire dans ta situation, toute chose nouvelle. Dieu est prêt à prendre tes ruines ce matin, les ruines de ta vie, et reconstruire. Comme le mur de Jérusalem a été reconstruit, il va reconstruire pierre après pierre. Là où il y avait de la sécheresse spirituelle, il y aura l'abondance du cœur. Parce que de ce nouveau cœur va sortir l'amour de Dieu. Là où il y avait la disette, il te donnera des greniers remplis de paroles apaisantes. Parce que tu auras son esprit qui va vivre en toi. Ton cœur de pierre sera arraché afin que naisse un cœur de chair, prêt à louer et glorifier le saint nom de l'Éternel, que tu as blasphémé en te rendant coupable de compromis avec le monde. Mais sache que peut-être aujourd'hui tu es honteux, tu es confus, dégoûté de ta conduite. Mais Dieu, dans sa miséricorde et pour la gloire de son nom, te rendra digne d'être appelé enfant de Dieu. Alors tu te dis peut-être, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ben simplement parce qu'il a commencé en toi une œuvre et que Dieu veut la terminer. En Philippiens, chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est pour son nom que l'Éternel va rendre son œuvre parfaite en chacun d'entre nous. Et l'Éternel te déclare aujourd'hui, même devant toi, il te dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il agisse dans ta vie ce matin? Est-ce que tu le veux? Ça a été la question d'Emmanuel ce matin. Le voulons-nous? Est-ce qu'on le veut? On va prier. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. C'est vrai, Seigneur, que lorsqu'on parle de Israël, mon Israël, on peut mettre son prénom à la place d'Israël. Parce que les promesses sont pour nous également. Des promesses de rétablissement, Seigneur. Seigneur, que ce matin, tu puisses atteindre par ton esprit les consciences. Seigneur, que tu puisses agir afin d'arracher les cœurs de pierre et donner des cœurs de chair. Pour avoir une vision de qui tu es réellement, au travers d'une nouvelle intelligence. Seigneur, que les anciennes choses puissent passer, afin que toutes choses viennent nouvelles, y compris notre nom. Que nous puissions avoir un nom que seul toi connais. Ce fameux nom sur le caillou blanc dont il est question dans l'Apocalypse. Que toi seul connais. Merci Seigneur que toute situation n'est pas perdue avec toi. Tu es l'Éternel, tu es le Saint Dieu. Et merci Seigneur parce que tu pardonnes nos iniquités, tu pardonnes nos transgressions. Tu attends de nous que nous puissions revenir à toi. Comme le peuple s'est aperçu qu'ils avaient eu une conduite triste, qu'il avait déshonoré le saint nom de Dieu. Seigneur, peut-être que ce matin nous nous trouvons dans cette situation. Mais Seigneur, que tu puisses rétablir toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen.